Voilà, bonjour. Continuons d'avancer. Allez, je vais parler suisse gentiment, tranquillement, comme on dirait dans le sud, doucement, en direction de Pâques. J'en parlais justement avec un ami hier dans le sud de la France. Je crois que c'est la première fois, ça fait quand même quelques années que je suis chrétien, que je vis Pâques en me préparant à Pâques. 10 ans de travail de Jean-Jacques ont fini par porter du fruit. J'ai toujours été allergique aux fêtes chrétiennes. Vous savez, je suis de ces gens qui n'aiment pas fêter la Saint-Valentin parce que je dis c'est commercial, on ne fait pas ce jour-là, on le fait tous les jours. Et j'étais pareil avec les fêtes chrétiennes. Tous les jours, en fait, que Jésus est né, tous les jours, en fait, la résurrection. Et cette année, j'ai découvert le carême, Pâques, tranquillement, y avancer gentiment. Et on a fait aussi les cultes de l'Avent. Alors voilà. Ce matin, c'est le dimanche où on célèbre les rameaux, normalement. Cet apparent accueil de Jésus en gloire qui va très vite tourner à autre chose. Mais ce n'est pas le sujet que j'ai choisi pour ce matin, vous le saviez, pour une fois à l'avance. On va commencer en lisant un texte dans Jean 13. Je vous le lis. C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès de son Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. C'était au cours du repas de la Pâque. Déjà, le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et allait retourner auprès de lui. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement, prit une serviette qu'il noua autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il s'était nouée autour de la taille. Quand vint le tour de Simon, celui-ci protesta. « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant, mais tu le comprendras plus tard. » Mais Pierre répliqua, « Non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. » Dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est baigné est entièrement pur. Il lui suffit de se laver les pieds. Or, vous êtes tous purs, mais pas tous. Jésus, en effet, connaissait celui qui allait le trahir. Voici pourquoi il avait ajouté, vous n'êtes pas tous purs. Après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement et se rassit à table. Et il leur dit, avez-vous compris ce que je viens de faire ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, je le suis. Si donc moi, le seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. Dans ce moment-là qui est tout particulier, hein, Jésus sait très bien, les disciples ne savent pas, parce que bien sûr ça a été écrit après, alors là ils savaient, parce qu'ils ont vu le film plusieurs fois, mais à ce moment-là les disciples n'ont aucune idée, c'est Pâques c'est une grande fête hein, pour les juifs, c'est la fête de l'année même, donc ils sont tout contents, c'est la fête, il y aura un repas, il y a plein de gens, il y a les traditions, et voilà, c'est comme pour nous hein, quand une grande fête arrive. Ils n'ont pas du tout compris la gravité de l'heure, même si Jésus essaie de leur expliquer. Et là, il y a tous ces moments que Jean nous rapporte, qui développe en détail toute cette intimité. Hein. Jésus, lui, sait qu'il va partir et il laisse les choses importantes, il insiste encore dessus. Et il fait quelque chose là qui est très particulier. Juste préciser un petit peu, parce que c'est vrai que pour nous aujourd'hui, hein, si quelqu'un débarquait ce matin et puis se met un sous-vêtement, se met un torchon autour de la taille et commence à nous laver les pieds, ça serait extrêmement bizarre, même si, ou encore plus s'il disait qu'il fait ça au nom de Dieu. Ce qu'il nous faut comprendre, c'est que ce que Jésus a fait là était quelque chose de tout à fait normal. Culturellement, Sauf que ça aurait pas été à lui de le faire. Hein. Mais c'est pas un truc bizarre d'une secte d'aller laver les ou toucher les pieds des gens. Hein. C'était quelque chose de tout à fait courant. Hein. Les gens marchaient avec des sandales, ils n'avaient pas de chaussettes, les routes n'étaient pas goudronnées. Ça, c'était le bon temps. Très poussiéreux. Donc, quand on arrivait dans une maison, si vous arriviez chez vous, vous lavez les pieds tout simplement, hein, tout seul. À moins que vous soyez riche et que vous ayez des esclaves pour le faire. Mais quand on arrivait chez quelqu'un pour l'accueillir, voilà, on lui proposait de l'eau et puis de quoi se laver les pieds. Et là encore, si la famille était aisée et avait des serviteurs, des esclaves, c'est eux qui faisaient ce travail-là. Et puis, dans la hiérarchie des esclaves, c'était le boulot du bas. Hein. Je ne sais pas à quel travail on pourrait comparer ça ici aujourd'hui, parce que déjà, heureusement, on n'a plus d'esclaves. Et puis tous les boulots ont leur dignité. Mais c'était vraiment le bas du bas du bas de l'échelle sociale. C'était la caste des intouchables pour les Indiens ou ce genre de choses. Et puis Jésus donc fait cette chose-là qui pourrait être normale, sauf que ce n'est pas à lui de le faire, normalement. Donc ça c'était important pour nous, pour qu'on comprenne, parce que Jésus, pour enseigner, utilisait des choses qui faisaient partie de la vie des gens. Il n'inventait pas des trucs bizarres venus de je ne sais pas où, qu'on ne pouvait pas comprendre. Mais c'était quelque chose qui faisait partie du quotidien. Quand on arrivait quelque part, ben voilà, on se faisait laver les pieds. D'ailleurs, il y a d'autres scènes dans les évangiles où Jésus dit à quelqu'un qui l'a invité, qui ne l'a pas fait, alors qu'une dame vient lui pleurer sur les pieds, et puis mettre du parfum, essuyer avec ses cheveux, tu vois. Elle l'a fait comme ça. Donc c'était une chose normale, hein, entre guillemets. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que très peu de temps, probablement dans la même journée ou la veille, avant ce texte qu'on vient de lire, il y a cette autre histoire qui se passe. Hein. Parmi les disciples, il y en avait. Bon, il y avait Pierre qui parlait toujours sans réfléchir, on le voit là. Hein, c'est pour ça qu'il a été choisi pour pasteur après. Et puis, il y en avait deux que Jésus lui-même appelait les fils du tonnerre. Parce que contrairement à l'image qu'on a, en tout cas de Jean, on imagine toujours Jean, vous savez, un peu avec une auréole et puis gna gna gna. Jésus les appelait les fils du tonnerre. C'était deux colériques, mais colériques de chez colériques. Hein. Chaque fois qu'un truc allait pas, ils demandaient à Jésus, tu veux pas les désintégrer, faire tomber le feu du ciel. Voilà le genre de personnage que c'était. Hein. C'était pas du tout des contemplatifs retirés dans une grotte en train de... Non. Et donc, ces deux-là, on sait un peu pourquoi ils étaient comme ça, c'est que leur mère était pire. Vous avez déjà entendu parler des mères juives, hein, voilà. Elle voulait caser ses petits, ma parole. Hein, la meilleure place pour vous, mon fils. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Comme elle trouvait qu'ils n'étaient pas assez entreprenants, elle se dit, il faut encore que je les aide parce qu'ils ne vont pas y arriver. Ils ont, hein, Jean a peut-être 20 ans, son frère en a une trentaine, je ne sais pas, comme ça. Mais elle trouve qu'ils ne se mettent pas assez en avant. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Comme toutes les bonnes mères font, hein, les enfants adorent ça, surtout quand ils ont cet âge-là, elles prennent les choses en main. Hein, et elle va voir Jésus. On a ça dans Matthieu 20:20. La mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, se prosterna pour lui faire une demande. Et elle lui dit, Jésus lui dit, « Que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume, mes deux fils que voici sont assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Rien que ça, hein, voilà. Hein. Quand tu seras roi, parce que royaume, roi, hein, nous on sait que c'est spirituel, mais pour eux, voilà, ils attendaient qu'il remonte, Jésus allait remonter sur le trône de David, ça c'était le plan, hein, c'est pour ça qu'ils suivaient. Et donc, quand tu seras, vous voyez que c'est pas nouveau les tractations pour les gouvernements avant les élections et tout, qui sait qui aura le poste, quand tu seras roi, je ne te donne pas d'ordre, Jésus. Hein. Tu peux choisir lequel des deux tu mets à droite et lequel tu mets à gauche. Tu vois, tu as le choix. Mais pour mes fils, voilà ce que je veux. Hein. Donc ça, c'est un petit peu le contexte. Ça s'est passé il n'y a pas longtemps, la veille ou comme ça. Alors Jésus répond et puis il leur dit, je saute quelques versets. Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Si quelqu'un veut être parmi vous le premier, qu'il soit votre esclave. Alors, ils ont entendu ça, j'imagine. Bon, la maman, elle ne devait pas être contente. Elle est partie faire sa colère ailleurs. On ne sait pas si elle était veuve, mais on le souhaite presque pour le mari, parce que sinon, qu'est-ce qu'il a dû prendre quand elle est rentrée? Et puis, les disciples, ils ont entendu ça, mais honnêtement, ils n'ont rien compris, quoi. C'est quoi cette histoire? Parce que là encore, nous, on a 2000 ans de culture chrétienne où les valeurs se sont inversées. Maintenant, même les gens orgueilleux veulent donner l'impression qu'ils sont humbles. Si on pose une question à quelqu'un dans la rue, c'est qui les personnages les plus importants? Il se sent obligé de dire Mère Teresa, Sœur Elisabeth. Pourquoi? C'est pas ce qu'il pense souvent. Mais ça fait bien d'avoir cet inversement des valeurs que les plus humbles sont les plus grands. Mais ça, c'est un résultat, bon ou pas, de la culture ou des valeurs chrétiennes. À cette époque-là, les grands, ils étaient grands, ils étaient fiers d'être grands, d'écraser les petits, et c'était normal. Les petits sont faits pour être écrasés. Hein, comme le dit si bien Louis de Funès, mais il aime le peuple qu'on l'exploite. Hein, voilà. Mais c'était la pensée normale, donc il n'y avait aucune gloire à être petit, à être humble, parce que dans les valeurs de l'époque, un petit ou un humble, ben c'était un petit ou un humble, tant pis pour lui, il n'avait qu'à être grand. Hein. Et puis tout le monde voulait être grand, ce que de toute façon, tous les hommes veulent. Hein. C'est juste qu'à l'époque, ils étaient un peu plus honnêtes. Quoi. Non, non, je veux la paix dans le monde. Non, je veux être le roi. Et puis, non, je ne me présente pas pour Miss France. Non, 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 ne vous inquiétez pas. Hein. Donc c'est dans ce contexte-là, et Jésus sait très bien que les discours, c'est une chose, mais les actes, c'est autre chose. Et là, il fait quelque chose de radicalement choquant pour appuyer ce qu'il a essayé de leur expliquer avec des mots, mais qui a dû leur passer des kilomètres au-dessus de la tête. Hein. Il prend vraiment le rôle du plus bas, du plus bas, du plus bas dans la culture où ils étaient, dans la société où ils étaient, et il leur lave les pieds. Alors, bien sûr, il y a un enseignement spirituel derrière, hein, avec voilà, le fait que si nous avons accepté Christ, nous sommes purs, purifiés, déclarés justes par Dieu. Mais en même temps, parce qu'on est sur terre, on se salit les pieds tous les jours, et donc on doit tous les jours confesser nos péchés à Dieu. Ça, c'est un enseignement qui est contenu là-dedans aussi, qui est important. Mais ce n'est pas vraiment la leçon principale de ça. C'est enseigné ailleurs, c'est très clair. Là, ce que Jésus est en train de faire, c'est un renversement incroyable de la hiérarchie de la direction. Comment ça se passe dans le royaume de Dieu. Et en fait, il va expliquer aux êtres humains comment ça se passe dans la Trinité. Parce que la société idéale, c'est la société de Dieu. Et la société de Dieu, elle est contenue tout entière dans le mystère de la Trinité qu'on ne peut pas comprendre, mais qui nous est un tout petit peu révélé, entre ce Dieu unique en trois personnes, où chacune des trois personnes est distincte, différente, et vit pour les deux autres. Hein. Aime les deux autres, donne aux deux autres, et vit pour les deux autres, chacun. Et ça, c'est la société parfaite. Hein. Ils sont trois, et puis le Père est toujours en train d'aimer le Fils, d'aimer l'Esprit, donner au Fils, donner à l'Esprit, et le Fils vit pour le Père et pour l'Esprit, et il aime le Père, et il aime l'Esprit, et l'Esprit vit pour le Père. Et comme ça, ça fait cette circulation, hein, ce que moi j'appelle ce grand générateur d'amour qui est à l'origine de tout mouvement sur Terre, de tout ce qu'il y a dans l'univers. C'est cette énergie-là qui fait que l'univers continue de se développer et puis que le soleil tourne et les étoiles et tout le reste, et puis que nous, on peut exister. Hein. Et donc, Jésus essaie d'importer ces valeurs-là dans notre monde qui a été touché par le péché et où l'essence même du péché, c'est maintenant le chef, c'est moi, je vis pour moi, je suis le plus important du monde. Et on est tous nés avec, incrusté dans chacune de nos fibres, l'évangile du « selon moi hein. ». Aimez-moi les uns les autres, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour moi, je suis le… Voilà. Alors la politesse, surtout dans un pays comme ici, on nous a appris qu'il ne faut pas dire ça. Hein. Non, non, c'est les autres d'abord, merci bien, je suis reconnaissant. Da, da, da. Ça, c'est le vernis dessus. Mais dessous, on est tous pareils, tous les êtres humains partout sur la surface de la Terre. Depuis qu'on est tout bébé, jusqu'à la fin, moi, 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 moi. Puis c'est comme ça, on est comme ça, c'est tout. C'est pas, on ne va pas ni se flageller le dos pour ça, c'est comme ça. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Il a prévu autre chose. Et là, il est en train de donner une des deux caractéristiques du royaume de Dieu. Hein. À quoi on reconnaît que le royaume de Dieu est quelque part? Ben, le royaume de Dieu, c'est là où le roi règne, bien sûr, et c'est là où les principes de ce royaume sont appliqués. Jésus n'a pas laissé des milliers de choses. Hein. Une des deux, c'était « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Ça, c'est sur nos relations entre nous. Et l'autre principe qui est complètement déroutant, c'est les plus grands, les chefs, c'est ceux qui sont au service des autres. Deux choses. Aimez-vous les uns les autres. Et vous voulez être le chef ? Allez servir les autres. Mettez-vous à leur service. Donnez leur vie pour eux, hein, comme Christ l'a fait pour nous. Quand ces deux choses-là sont manifestées, le royaume de Dieu est manifesté. Et vous voyez pourquoi, si on pouvait dresser une carte géographique du royaume de Dieu, et puis qu'on dresse une carte géographique des églises, je ne parle pas d'une en particulier, on aurait du mal à superposer les deux. Parce que, on est un peu passé à côté. Quand on demande dans la rue à des gens qui ne sont pas croyants, c'est quoi pour vous une église ? Ils ne vous disent jamais, c'est là où les gens s'aiment et c'est là où les dirigeants servent les autres. Jamais. 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 C'est triste, hein ? Parce que ça devrait être les deux choses qu'on sait de l'église. Là où les gens s'aiment entre eux, où on est accepté comme on est, où on peut être qui on est par la grâce de Dieu, parce que voilà. Et puis c'est l'endroit, le seul endroit sur terre où les seigneurs et les maîtres sont ceux qui servent les autres et qui prennent la position de serviteurs. Mais attention, en sachant qui ils sont. Hein, il n'est pas question ici de cette fausse humilité puante qui est « Oh, je ne vaux rien, je suis misérable, je ne vaux rien. Oh, » Non, ça c'est encore de l'orgueil. Hein. Jésus dit « Vous m'appelez Seigneur et Maître, vous avez raison, c'est moi. » Il n'avait pas de problème d'image propre hein, à ce niveau-là. Il sait très bien, le plus grand, c'est moi, le chef, c'est moi, oui, parce que ben, c'est comme ça, je n'ai pas choisi, c'est moi. Et justement, regardez comment je me comporte. Je suis là pour vous servir. Et puis là, ils savent pas encore à ce moment-là, enfin, quand ça a été écrit, ils savaient, mais au moment où ils l'ont vécu, ils ne savent pas à quel point il va donner sa vie pour eux. Parce que laver les pieds, c'est déjà humiliant, etc. Mais derrière, il y a tout le reste. Hein. Jette ses manées. J'ai fait un petit anachronisme, j'en ai parlé dimanche dernier, mais tant pis. Et puis la croix, avec tout ce que ça comporte. Hein. Mais c'est quelque chose qui est vraiment important, parce que ça devrait être un petit peu... Vous savez que ces espèces de stylos là que les gens ont aux caisses pour vérifier si vos billets sont faux ou vrais, là, hein, ils passent le stylo dessus, puis pof, ça, je ne sais pas ce qui se passe, mais ils voient si c'est vrai ou faux. En fait, on a un truc comme ça pour vérifier si l'Église est l'Église, si c'est le royaume de Dieu ou pas. Si on va quelque part et ceux qui se disent les chefs se font servir, ah ben non, c'est pas le royaume de Dieu. Et puis, alors bien sûr, personne n'est parfait, ni dans ça, ni dans le reste. Mais en tout cas, c'est vers ça qu'on tend. Et puis, c'est un défi terrible. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est dit que ceux qui sont responsables, donc qui sont les chefs, soi-disant, seront jugés plus sévèrement. Pas parce qu'ils ils doivent être meilleurs que les autres, ils ne peuvent pas être meilleurs que les autres. Mais parce qu'ils ont cette double responsabilité, en plus de celle qu'ont tous les croyants de s'aimer les uns les autres, ils ont aussi celle de servir au lieu d'être servis. Et c'est pour ça qu'en fait, le pire péché... Je ne suis pas en train de dire que l'adultère, c'est bien, c'est très mal, hein, toutes ces choses-là. Mais le pire péché, c'est utiliser sa position dans le corps de Christ pour se faire servir. Parce que c'est ce qui porte le plus atteinte à l'image de Dieu. Le reste, c'est très mal, attention, c'est très grave, ça a des conséquences, ça détruit. Mais je dirais, c'est une erreur personnelle. Alors que là, ce n'est pas une erreur personnelle, c'est un choix d'aller contre ce que Dieu a établi. J'aimerais relever encore deux, trois petites choses de ce texte. Dans le début, il est dit, c'était juste avant la fête de Pâques, et Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller. Hein, et il savait, c'est dit deux fois, c'est voilà, après au verset 3, Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, hein, et qu'il allait retourner auprès de lui. Et quand j'ai lu ça m'a interpellé, parce que des fois, avant, j'avais l'impression que c'était comme un avantage. Il savait ce qui allait se passer. Donc c'est super, il sait tout, il sait qu'il va ressusciter, c'est génial, quoi. Et puis aujourd'hui, je me dis, mais c'était terrible de savoir. Hein. Moi, j'aimerais pas savoir quand je vais mourir et comment je vais mourir. Parce que la veille, ça va être compliqué, quoi. Hein. Ou l'avant-veille, etc. Jésus savait, mais c'était pas plus facile pour ça. Et puis, savoir et vivre, c'est deux choses différentes. Et ce qui m'a arrêté là-dedans, c'était de voir que, encore une fois, dans son humanité, on était proche. Dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, j'ai repris cette belle phrase de Gilles Simon, hein, qui disait « Nous avons miséré ensemble et je l'aime. » Et c'est aussi ce qu'on peut dire avec Jésus, ou lui avec nous, « Nous avons miséré ensemble et on s'aime. » Et quand je vois ça, je me dis, en fait, c'est comme moi, parce que moi, je suis sûr que je vais aller au ciel après ma mort, hein, j'ai pas de doute là-dessus. Je sais où je vais, je sais d'où je viens. Sauf que, est-ce que c'est beaucoup plus facile pour ça? Ouais, peut-être un peu plus, mais quand même, c'est pas facile. Hein, parce que, il faut le vivre. Et Jésus est passé par là aussi, et c'est pour ça que, quand nous, on arrive à ces moments-là, on sait qu'il nous comprend, parce qu'il y a été. Il l'a vécu réellement. Hein. Il savait. Avec une différence énorme, c'est que Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains. Ça veut dire que lui, il aurait pu changer le cours des choses pour lui. Il pouvait éviter ces choses-là. Hein. Juste, hop, stop, temps mort, arrêt, on arrête tout, je rentre à la maison direct, sans mourir. Là. Pouf, pouf. Puis c'est fini, il se débrouille en bas. Hein. C'est, voilà, bon, je ne sais pas si on peut dire que c'était possible, mais c'était possible. Et puis, non, et bien sûr, il n'a pas pris cette option-là. Il a décidé d'aller jusqu'au bout. Et ça, c'est une chose qui est magnifique. Et puis, cette première phrase, toujours dans Jean 13, 1, hein, Jésus savait que l'heure était venue. Hein, c'est pourquoi il donna aux siens qui l'aimaient et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. J'ai regardé un peu toutes les traductions qu'on peut trouver en français dans toutes les différentes Bibles qu'on a. Hein. Et cette expression-là, elle est traduite par, de façon différente, mais qui veulent dire la même chose. Hein, mais je trouve que ça le met bien en relief. Il mit le comble à son amour pour eux. Il les aima jusqu'à la fin. Il leur donna une preuve suprême de son amour pour eux. Il les aima jusqu'à l'extrême. Il leur donna la preuve la plus éclatante de son amour. Il leur montra jusqu'où allait son amour pour eux. Ça, c'est toutes les traductions qu'on trouve pour parler de ça. Et j'ai beaucoup parlé ces derniers temps des fruits dans nos vies. On n'est pas là pour faire des choses, on est là pour vivre dans l'intimité avec Dieu, au quotidien, moment après moment, et ça doit porter du fruit. Et là, on voit un fruit de l'amour de Jésus pour ses disciples. C'était pas... alors oui, il voulait les enseigner aussi, mais c'était pas juste un acte raisonné, calculé dans le programme. Voilà, c'est le cours 12 dans la leçon 17. Non. C'était aussi un fruit de son amour pour eux. Et c'est aussi quelque chose qui est encourageant de voir que Jésus lui-même, quand il était sur terre, a fonctionné comme ça. Il ne faisait pas des choses pour, il laissait la communion avec son Père et l'amour qui était en lui portait des fruits. Et là, le fruit arrive à maturité. Il laissa son amour aller jusqu'au bout. Ça, c'est quand tout se passe bien. Quand la fleur a été fécondée, qu'elle a pris le temps, et puis le soleil, il y a eu tout ce qu'il faut, et le fruit est arrivé, paf, il est mûr, parfait. Hein. Là, on le cueille, et puis il est prêt à être consommé. Et c'est ce qui se passe en ce moment-là, et c'est très très beau, parce que c'est un moment où on pourrait se dire, Jésus mériterait ou aurait besoin ou qu'on s'occupe de lui. Hein. Parce que, rappelez-vous, il sait où il va. Même s'il n'a pas encore vécu. Et dans ce moment-là, où tout justifierait qu'on s'occupe de lui, il n'est pas tourné vers lui-même. Et en même temps, ce n'est pas un déni de ses besoins, c'est pas parce que, rappelez-vous, une semaine avant ça, lorsque la sœur de Lazare, Marie, lui verse une année de salaire de parfum sur les pieds et les essuie avec ses cheveux et que tout le monde est offensé par ce gaspillage, ce mauvais calcul financier. Et Jésus dit, hein, elle a fait ça en prévision de ma mort. Et laissez-la faire, c'est une bonne chose. Hein. C'était une petite provision sur le compte de Jésus au niveau amour, au niveau émotionnel, au niveau support de... Hein, et puis, par hasard, c'était une femme qui a fait ça. Toute petite parenthèse. Qui c'est qui avait vu le gorille ? Relevez la main, s'il vous plaît. Non, je me suis trompé. Oui ? Non, j'avais l'impression qu'il y avait plus de femmes que d'hommes. Ça ne m'étonnait pas. Hein ? Parce que, par exemple, pour la résurrection, il n'y a que les femmes qui ont vu que c'était Jésus. Quoi. Les disciples, il fallait leur expliquer. Les femmes, elles l'ont compris. Donc, il y a toujours ce... Ouais. On est défavorisés, c'est comme ça. Aimez-nous quand même. Et puis, juste encore un peu après, hein, ou plutôt à la fin de ça, il leur dit, vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. C'est la fin du texte. Et là, encore une fois, je voudrais juste rappeler que ces paroles, elles sont écrites, elles sont à peu près bien traduites, etc. Mais notre façon de les comprendre peut être correcte ou à l'envers. Si on part avec ça, en disant « maintenant, je dois toujours faire ce qui est désagréable, c'est à moi de toujours faire les trucs nuls, parce que comme ça, voilà, Dieu est content. » Non, c'est pas ça. Hein. Mais, encore une fois, si on vise ce résultat, aimer être au service des autres, alors il ne faut pas dire « je vais le faire », il faut dire « qu'est-ce qu'il faut pour que je le vive ?» Et puis il faut prendre les choses au début. Hein. Si je veux une pomme, qu'est-ce que je fais ? Je plante un pommier. C'est long. Hein. Si j'aime les pommes et que je plante un pommier, ouf. Mais quand j'aurai des pommes, ça sera des bonnes pommes, des vraies pommes hein, qui ont poussé et puis qui ne sont pas trafiquées, qui ne sont pas... Voilà. Et puis il faut tout le temps que... C'est long, hein. Les pommes, c'est un mauvais exemple parce que non, je plante des pommes pour mes enfants. Hein. Mais c'est quand même ça. Donc toujours se rappeler, et je vais terminer là-dessus, que quand il est dit « pratiquez-le, faites-le », il faut se rappeler ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire « alors maintenant j'ai compris, à moi de le faire, et puis je vais suer sang et eau pour le faire en me faisant du mal, et puis en étant frustré, et puis je lave les pieds des autres en grinçant des dents, en disant « pourquoi c'est pas eux qui lavent les miens ?» Et puis « mais en fait, bon, je l'ai fait pour Dieu, c'était dur, mais j'ai souffert pour lui, puis je pense que ça y fait plaisir. » Puis c'est tellement nul. Dieu dit, mais ça ne me fait pas plaisir. Du tout. Ce n'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est que tu me laisses t'aimer jusqu'à ce que cet amour te remplisse tellement qu'à un moment, tu n'as pas le choix où tu vas exploser. De toute façon, si tu exploses, c'est bien, parce que si on explose parce qu'on est trop plein d'amour, ce qui sort, c'est de l'amour, ça fera pas mal. Hein? Mais où ça devient un besoin pour se soulager. De déverser un peu de cet amour. Et là, c'est un vrai plaisir. Mais ce n'est pas naturel, c'est impossible pour tout le monde, c'est contre nature. Et comment on arrive à ça ? Comment le pommier fait des pommes ? Ben, en vivant dans l'intimité de Christ, jour après jour, moment après moment, et je tombe, et il me pardonne, et je marche sur les pieds des autres, et je demande pardon, et il me marche sur les pieds, je les pardonne, et j'y arrive pas, et ben, je reviens à lui, et puis encore. Mais j'apprends toujours plus à vivre dans son intimité. Je découvre que nous misérons ensemble, qu'il m'aime, et puis qu'on se réjouit ensemble aussi. Et c'est ce qui va faire que ces caractéristiques du royaume de Dieu, s'aimer les uns les autres et puis se servir, vont être manifestées. Alors Jésus, lui, l'a fait parfaitement, parce qu'effectivement, il était en permanence nourri de l'amour du Père, de l'amour de l'Esprit qui le remplissait. Et c'est pour ça qu'il pouvait donner tout le temps et pas être frustré, pas être vide, pas être mal. Mais c'est aussi pour ça qu'il devait sans arrêt dire « Hop, ciao les gars, je pars sur la montagne, une journée, une nuit, deux jours, trois jours, le temps qu'il fallait. Hein. » c'est pour ça que des fois, il s'endormait la journée dans une barque parce qu'il avait passé la nuit à pas dormir. Pourquoi ? Parce qu'il a vécu ça en tant qu'être humain, même s'il n'avait pas le péché. Et être rempli de Dieu... Ça ne se fait pas en écoutant un message vite fait comme ça. Ça ne se fait pas en 10 minutes, paf, paf, le matin, poup, 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 je lis mon petit verset, je m'en vais. Non, ça se fait en vivant avec lui. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça demande de la patience. Ça demande d'accepter que, ben voilà, on se met à la disposition de Dieu, puis il ne se passe rien. Et puis, j'ai passé cette heure-là tranquille à méditer, puis j'en ressens rien. Ben tant pis, c'est pas grave. Moi, j'ai essayé de regarder mon pommier pendant une heure, j'ai rien vu. Mais au printemps, il y avait quand même des pommes. Hein. Même plus d'une heure, toujours rien vu. Mais à un moment, elles sont là. Donc, ça demande tout ce petit travail tranquille, discret, qui ne se voit pas, qui ne fait pas d'étincelles, qui ne fait pas des grandes choses, mais où on vit quotidiennement, on respire, on reçoit le soleil, l'air, la lumière. Et à un moment, poup, il y a le fruit, et puis il est mûr. Ah, ça, c'est du bon, ça. C'est du vrai bio de chez bio. Il n'y a pas de produit, il n'y a rien. Il y a même le petit verre dedans pour les protéines, il y a tout. Quoi. C'est super. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Alors, vous êtes heureux si vous le pratiquez. Mais on se rappelle que pratiquer, c'est ça. C'est vivre avec Dieu et puis le laisser nous aimer. Seigneur, merci parce que c'est toi qui as vécu ces moments tellement difficiles qu'on ne peut pas les imaginer. Et tu l'as vécu parce que tu nous aimais, parce que tu étais plein d'amour. Et parce que ton amour pour nous a été jusqu'à te donner complètement dans tous les domaines. Merci pour ce récit qui nous rappelle quelles sont les valeurs dans ta société, dans ton royaume. Et tu vois que c'est complètement l'opposé de ce que notre cœur est naturellement. Alors on veut t'inviter dans nos vies. On veut te recevoir. On veut s'attabler avec toi. Se laisser aimer par toi. Jusqu'à ce que nous soyons transformés de l'intérieur et que nous puissions à ce moment-là porter du fruit qui te glorifie en répandant ton amour autour de nous. Merci pour ce moment ensemble, merci pour l'encouragement que nous pouvons recevoir les uns par les autres et continue de nous parler, de nous garder, de nous conduire dans ce moment ensemble, Seigneur Dieu. Amen.